Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Daniel Siboni, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob un livre passionnant, intéressant, dont nous allons parler aujourd'hui. Et le titre en est « L'entre-deux sexuel ». Vous êtes mathématicien, philosophe, psychanalyste, auteur de plus d'une quarantaine de livres, publiés parfois chez Le Seuil, mais je pense surtout majoritairement chez Odile Jacob. Vous êtes une personnalité majeure de la pensée actuelle, de la réflexion philosophique, et vos livres sont pleins de science et sont originaux et puis brillants par leur écriture et leur référence majeure.
Merci.
C'est très sincère. Alors ce livre, l'entre-deux sexuel, on peut dire que déjà la notion... L'entre-deux est une question qui vous passionne depuis longtemps et à laquelle vous avez déjà consacré deux ouvrages. Entre-deux, l'origine en partage, chez Le Seuil en 91 et puis réédition, je pense, en 98. Et là, l'entre-deux sexuel, chez Odile Jacob. Alors, qu'entendez-vous, Daniel Siboni, par l'expression entre-deux ?
Mais vous savez, j'ai en effet créé cette notion... Il y a 30 ans, dans ce livre, Entre deux, l'origine en partage, pour désigner, lorsqu'il y a une différence entre deux termes, l'espace de jeu, où les deux communiquent, s'enchevêtrent, se mélangent, créent de nouveaux possibles, interfèrent avec peu à peu une structuration même de cette interférence. Bref, le terme de différence m'est apparu très insuffisant pour rendre compte de la réalité et de la réalité humaine, tout spécialement. À quoi ça vous sert de savoir qu'un homme, c'est différent d'une femme ? Ce qui est plus intéressant, c'est de voir les connexions possibles entre cet homme et cette femme, ou entre les hommes et les femmes, si cette expression a un sens. Donc, et à quoi ça vous sert de savoir qu'il y a des différences entre l'Europe et l'Afrique ou entre l'Occident et l'Orient ? Ce qui est intéressant, c'est les interconnexions, les relations qui font que des Africains essayent de devenir européens à la manière africaine et que des Européens essayent de s'orientaliser à leur manière, donc c'est toujours les croisements. Et pour ce qui est de l'entre-deux sexuel, ça m'est apparu vraiment urgent de parler de l'aspect sexuel de l'entre-deux, puisque je viens de vous dire que l'entre-deux est une notion qui opère dans vraiment beaucoup de domaines. Là, je travaille avec un ami biologiste à un livre sur la fécondité humaine, la fécondité des couples. Ben rien que l'ovule et le spermatozoïde, ça fait un sacré entre-deux d'une incroyable richesse et complexité. Donc, il me fallait aborder la dimension sexuelle de l'entre-deux, donc la relation, les connexions possibles entre les deux sexes, et ou entre, en réalité, non pas seulement entre les deux sexes, mais entre deux corps et j'ai introduit une notion supplémentaire que j'avais déjà introduite dans mon livre sur la danse, « Le corps et sa danse ». Cette notion, c'est l'entre-deux corps. Je dis que quand il y a deux corps en présence l'un de l'autre, il se passe quelque chose, soit de la bienveillance, de l'agressivité, de l'attirance, de la répulsion, des relations possibles, pas forcément ou uniquement sexuelles, pas uniquement érotiques, mais aussi érotiques éventuellement, des relations de pensée, de transmission. Donc il se passe quelque chose entre deux corps, et cette notion m'est apparue essentielle. Et donc, je me suis trouvé vraiment capturé par cette recherche et par la nécessité de dire certaines choses qui, moi, me semblaient évidentes, mais qui ne le sont pas. Et vous savez que dans la mouvance psychanalytique, il y a des querelles, et même dans la mouvance des idées, pour certains, la différence sexuelle, c'est le nec plus ultra, c'est la notion la plus ultime qui soit. Pour d'autres, ils disent non, en réalité, c'est une notion secondaire. Ils vont même jusqu'à dire, on peut passer sans problème d'un sexe à l'autre. À la limite même, il y a des idéologues comme Judith Butler qui disent normalement on décide soi-même de son sexe, et en allant plus loin encore du côté un peu délirant, les enfants doivent pouvoir dire eux-mêmes quel est leur sexe. Donc, vous voyez, c'est à ces deux pôles qui constituent eux-mêmes un entre-deux, il y a une vision différente de cette... des données biologiques et symboliques qui définissent les identités sexuelles. Et donc, j'ai entrepris une sorte d'exploration de cet entre-deux, des passages possibles de l'un à l'autre, parce que ce qui me préoccupait le plus, c'est de créer une sorte de cadre, oui, dans lequel les rapports entre deux corps seraient possibles, et avec chacun ses problèmes. Évidemment, on y viendra quand on parlera des enjeux de la rencontre amoureuse. Mais j'avais envie de faire un cadre dans lequel deux corps peuvent communiquer sur le plan érotique, symbolique, sexuel, quel que soit leur choix. C'est-à-dire que dans ce cadre que j'ai créé, qui s'appelle l'entre-deux sexuel, ça peut être des rapports homo, hétéro, trans, un homo avec un trans, un hétéro avec une homo, etc. Il y a beaucoup de cas possibles, et y compris des corps qui ne sont pas sensibles à la dimension sexuelle, mais qui quand même existent en tant que corps. Voilà l'enjeu de ce livre. Et du coup, ça m'a amené à explorer d'abord ce qu'on appelle le rapport sexuel, comment il se joue pour les hommes et les femmes différemment, et en même temps, ça m'a amené à m'expliquer avec toute ce déferlement idéologique auquel on assiste sur les questions du genre, de la transidentité, comme je viens de vous le dire, du fantasme que l'identité sexuelle, c'est une pure construction sociale. Et alors que je montre que justement, l'identité sexuelle, c'est un entre-deux, on y viendra. Et je suis, figurez-vous, tombé, comme souvent dans mes livres, sur la référence biblique, parce que la Bible compte beaucoup dans ma formation, et j'ai exploré comment la Bible traitait cette question. Et il y a donc dans le livre un chapitre important qui s'intitule... avec un point d'interrogation, la Bible patriarcale. Je questionne l'idée que la Bible serait purement patriarcale ou phallocrate. Voilà.
Daniel Stibony, ce livre est fourmille de références d'idées. Alors, revenons sur votre conception de l'identité sexuelle. Intègre-t-elle des données biologiques,
oui,
virgule, génétiques, symboliques, culturelles ou même le désir de la mère? Si je souhaite avoir un petit garçon et que j'ai une petite fille, d'emblée, j'aurai tendance, envie, la pulsion de l'habiller de façon différente. Donc, le désir de la mère aussi peut influer sur la construction de l'identité sexuelle de l'enfant qui est non seulement anatomique, mais aussi mentale, l'idée qu'il se fait.
Tout à fait.
Voilà. Alors, cet univers, l'identité sexuelle, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Justement, vous venez d'en dire déjà un bout, et l'identité sexuelle, elle n'est pas définie comme ça, et isolément, on ne prend pas un corps et on dit « voilà son identité sexuelle ». On peut dire « il est né garçon, elle est née fille, et on la voit grandir, c'est une fille, etc. » Mais son identité sexuelle profonde, en quelque sorte, je dis qu'elle a beaucoup de dimensions et que la dimension biologique, d'abord, est absolument essentielle. Je vous signale, d'ailleurs, que même les transsexuels ou ceux qui considèrent que on peut passer d'une identité sexuelle à l'autre sans problème, que c'est tout naturel, etc. Même eux, ou ceux qui désirent naître d'aucun sexe défini, parce qu'ils se sentent des deux, ce qui est encore un cas extrême, même ceux-là accordent une grande importance à la dimension biologique. Vous savez que, par exemple, quand des gens veulent changer d'identité sexuelle, par exemple, passer de homme à femme, eh bien, ils demandent, et ils y ont le droit, ils demandent à ce qu'on conserve leur spermatozoïde. Et quand la psychologue les questionne en disant « mais pourquoi faire puisque vous allez être une femme ?»« Ah ben non, je voudrais avec mes spermatozoïdes inséminer une femme pour avoir une progéniture de mon génome, de mon sang. » Et donc, alors même que ce sont des personnes qui peuvent être amenées à récuser, voire à mépriser la dimension biologique. Je vous signale aussi que la Bible accorde une grande importance à la dimension biologique. Le zera, la semence, qui est en fait une façon de dire que les parents transmettent quelque chose et que cette transmission a une dimension biologique absolument essentielle, irréductible. Alors, il y a aussi une dimension sociale. La société peut très bien mettre son grain de sel là-dedans. Et les études de genre ont beaucoup insisté sur le fait que, en réalité, la société met tellement son grain de sel là-dedans, elle vous habille en bleu si vous êtes un petit garçon, en rose si vous êtes une petite fille, elle vous fait jouer avec des mécanos ou avec des poupées, donc elle intervient, et c'est ce qui a fait franchir le pas, donc, à des gens et qui suivent Judith Butler, et qui, à mon avis, sont un petit peu dans une sorte de surenchère et de méconnaissance, c'est que cette dimension sociale qui s'ajoute, elle est importante, mais elle n'est pas déterminante. Elle entre en dialectique, dans une dynamique d'entre-deux avec la dimension biologique. Mais il y a encore un autre entre-deux, par exemple, là, l'enfant avec son capital biologique, phénotypique, génotypique, et le désir de la mère. Et je vais vous citer un exemple qui n'est même pas une patiente, une personne de ma connaissance, me parlant de sa fille. Elle me dit, voilà, moi je voulais un garçon, et puis voilà, on m'apprend c'est une fille, bon, ben, j'ai dit, d'accord, etc. Et puis, je l'habillais toujours en garçon, et puis, quand elle s'est mise à mettre des jupes, on l'a trouvé ridicule, je la trouvais ridicule, etc. Et au total, au final, comme on dit, la fille a grandi, elle est homosexuelle et elle a une allure de garçon. Elle est même dans des corps de métier qui sont essentiellement masculins, mais la mère, ce qui est drôle, c'est que la mère m'a dit, eh ben, finalement, j'ai gagné. Elle voulait un garçon, elle l'a eu. Donc le désir de la mère peut être absolument déterminant, peut être en compétition avec la dimension biologique, pas au point de l'annuler. Encore que avec les nouvelles techniques, et technique est presque un grand mot, c'est de la chirurgie et des hormones, et c'est devenu assez facile de faire des changements. C'est même ce qui pousse certains à se questionner, à se demander, est-ce que vraiment je suis un homme, est-ce que vraiment je suis un garçon, non, je me sens pas très bien, et avec toutes les ambiguïtés que vous pouvez imaginer, des gens qui, tout en étant masculins, se sentent pas très bien dans leur corps, il y a mille raisons de pas très bien se sentir dans son corps. Donc quand il y a des techniques qui offrent, quand il y a un marché qui offre ce produit, changement de sexe, sans trop de mal, eh bien, ils peuvent se jeter dessus. Mais enfin, c'est des cas minoritaires. Tout ça pour vous dire que l'identité sexuelle est une construction constante entre deux pôles, entre biologique et symbolique, entre symbolique et désir de la mère, entre désir de la mère et pression sociale, etc. Et tous ces entre-deux sont convoqués pour faire de l'identité quelque chose de dynamique. On ne définit pas une identité isolément, sauf à l'instant T. Mais quand l'instant T varie et qu'on entre dans le temps, dans une évolution, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'est ce corps, c'est avec qui il veut aller, avec qui il tolère d'être, avec qui il n'aime pas aller, etc. Et je vous signale que dans la Genèse, qui est un très bon texte sur l'identité sexuelle et sur le désir sexuel, ce qui est dit, c'est il a créé l'humain à Adam. Mmh. Il n'a pas dit il a créé Adam, il a créé à Adam, l'humain, et il a dit Zahar unkeva bara otam. Donc il d'emblée, le humain est pluriel et il est masculin et féminin. Ce qui veut dire qu'il y a des êtres tellement masculins que c'est des hommes, des êtres tellement féminins que c'est des femmes, mais que dans l'homme il y a du féminin et que dans la femme il y a du masculin. C'est ça aussi, masculin et féminin, il les a fait. Plus tard, Freud a pensé faire une grande découverte, en tout cas en son temps c'en était, en disant « Attention, les humains sont par essence bisexuel, il y a du masculin et du féminin dans chacun. » C'était écrit dans ce petit verset modeste.
Alors, nous avons parlé de l'anatomie. Alors, l'anatomie est en amont déterminé, c'est l'héritage physiologique, biologique du géniteur et de la mère, mais c'est aussi dans sa distribution un hasard. Est-ce que ce fait peut ouvrir sur un entre-deux, celui par exemple de sa manipulation?
Alors vous savez que Freud avait dit « l'anatomie c'est le destin ». Et moi j'explique dans ce livre qu'il aurait pu dire « l'anatomie c'est le hasard ». C'est par hasard que vous êtes une fille et que je suis un garçon. En même temps, c'est pas tout à fait un hasard, parce que si on étudie les histoires familiales, on s'aperçoit que c'est peut-être pas un hasard si le deuxième enfant de cette famille qui désire, qui a eu une fille ou qui a eu quatre filles et qui désirait un garçon, c'est peut-être pas un hasard si ça a été un garçon. Donc c'est déjà un hasard qui est nuançable. Mais en effet, au niveau anatomique, bien sûr que ça peut donner lieu à des manipulations. On les a évoquées tout à l'heure.
Oui.
De pouvoir décider, je suis né homme et puis je me sens pas très bien dans mon corps. Je vais faire prendre des hormones, entreprendre ça s'appelle un parcours de transition et devenir femme. Et bon, très bien, des gens font ça ou le font en sens inverse. Il n'y a rien de spécial à en dire. Si vous voulez, il y a que quand des techniques sont disponibles, quand des produits ou des actes comme la chirurgie ou les hormones rendent possibles certaines choses, il ne faut pas s'étonner qu'un grand nombre de gens envisagent de les fréquenter, d'y recourir, peut-être même vont jusqu'à y recourir. Ça, c'est inévitable. Il y a une demande, il y a toujours eu des transsexuels depuis la nuit des temps, et ils n'ont pas toujours été et martyrisés, etc. Mais aujourd'hui, et le fait que des techniques rendent possible la transition font que on ne répond pas seulement à des demandes, mais qu'il y a une offre qui peut créer ou susciter des demandes. Surtout quand le social s'en mêle et qu'il fait des choix. Si par exemple dans une école, on décide carrément de ne pas dire « elle » quand on parle d'une fille, et pour lui laisser la possibilité de changer d'avis, on va se mettre à l'appeler « yel ». Là, c'est une pression, c'est un acte que fait cette école et qui n'est pas anodin. Pour ce qui est de la manipulation du hasard, votre question me fait penser à une chose, c'est que... Vous savez, quand on fait de la PMA, c'est-à-dire de la procréation médicalement assistée, alors on prend des donneurs, des donneuses. Alors un couple peut recevoir un don de sperme ou un don d'ovocytes ou même un don des deux, si ça fait, les deux font problème. Et on s'aperçoit que, alors que on avait des donneurs qui ne présentaient pas une certaine maladie génétique, le fait de les d'importer leurs gamètes fait que l'enfant qui est né avait cette maladie génétique. C'est très curieux. Ni le receveur n'avait cette maladie dans son génome, ni le donneur. C'est comme si la maladie était apparue parce qu'on avait violenté le hasard. On a importé quelque chose. Là, pour ce qui est de contredire le hasard, on l'a contredit. Et donc, c'est comme si ce forçage du hasard avait été mal encaissé par par les transformations génétiques qui se font à la conception. Vous savez que la conception, c'est tout un branle-bas de combat génétique. Quand le spermatozoïde fusionne avec l'ovule, et il y a tout un chambardement qui permet le partage des chromosomes, etc., l'élimination des surplus. Bref, c'est tout un travail génétique. Et apparemment, quand on a forcé le hasard, ça crée des erreurs. Vous voyez, des erreurs. C'est ça, une maladie génétique, c'est des erreurs dans la division cellulaire.
Alors, revenir sur l'idée du père, de la mère, enfin du géniteur et de la mère, qu'est-ce qui s'enfante dans cet entre-deux parental? Il y a la mère donneuse de vie, on a presque envie de penser que c'est une déesse, elle donne la vie. Et puis, il y a l'homme. Alors, qu'est-ce qui s'enfante entre le géniteur et la mère? C'est un univers.
Alors, justement, pour éviter de dire simplement, alors il y a le père qui a telle et telle importance, il y a la mère qui a une importance plus grande ou moins grande, on ne sait pas. Et moi, j'introduis ce que j'appelle l'entre-deux parental. Et l'entre-deux parental, c'est l'espace des interactions possible ou réel entre les deux parents. Et vous savez, dans toute une tradition psy, il était dit que le père transmet la parole, la mère transmet le corps. Et c'est un peu contraire à ce qu'on observe. Dans la réalité, le corps du père est d'une extrême importance. On parle justement de la présence du père, surtout quand elle a manqué. Et la parole de la mère a une extrême importance. Ce que suggère la mère, même sans le dire, est d'une importance énorme. Donc dans cet entre-deux, il y a des intrications, des interactions entre l'entre-deux corps de l'un, c'est-à-dire la parole et la chair du père, et puis la parole et la chair de la mère. Et ça fait tout un complexe dans lequel l'enfant est exposé et qu'il doit traverser. Et l'idée que je développe, c'est que cet entre-deux parental, il inclut pour moi le complexe d'Édipe, parce que le complexe d'Édipe, on peut l'exprimer de façon tout aussi rigoureuse, mais plus claire et plus simple. L'enfant franchit le complexe d'Édipe quand il franchit l'entre-deux parental, sans trop de séquelles. Ça veut dire en reconnaissant qu'il a eu deux parents qui ont une histoire avant lui, se sont aimés ou s'aiment encore, qui se sont désirés, qui ont fait l'amour pour le produire, qui ont chacun son désir, qui ont leur désir en commun. Bref, qu'il n'a pas à répondre de l'un face à l'autre, qu'il n'a pas à prendre le parti de l'un face à l'autre, qu'il n'a pas à remplacer l'un pour l'autre, etc., que c'est un vrai tiers et qu'il passe le long de cette ligne, de cet espace d'entre-deux. Et ça lui fait un viatique pour la vie. Quelqu'un qui franchit l'entre-deux parental de cette façon, eh bien, il peut aborder d'autres entre-deux, c'est-à-dire des rencontres avec un autre corps. Il peut construire un entre-deux corps qui tient à peu près debout.
Daniel Ciboni, on peut remarquer aussi que souvent les hommes sont très attachés à leur mère. Ils sont même parfois dépendants de leur mère, même au sein d'un couple marié. On peut observer donc l'attachement très très sérieux d'un homme avec sa mère. Alors quelle serait la clinique des hommes hyper dépendants de leur mère? Et par contre, on peut trouver aussi des filles qui sont narcissiques, c'est-à-dire qui sont repliées sur elles-mêmes. Est-ce n'est pas aussi le culte de l'image féminine en elle, c'est-à-dire celle de la mère. Le narcissisme de la fille, c'est le reflet de l'image de la mère en elle, et l'homme hyper dépendant de la mère, c'est aussi quelque chose que l'on peut remarquer. Qu'est-ce que vous avez à en dire ?
Alors, vous verrez, j'explique dans mon livre que dans la rencontre amoureuse, la rencontre, par exemple, d'un homme et une femme, chacun vient avec comment il a pu franchir l'entre-deux parental. Alors, vous me dites que certains hommes arrivent dans la rencontre en étant très dépendants de leur mère. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à faire la part de la mère et la part du père dans leur entre-deux parental. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils se sont comme écrasés sur le corps ou sur la parole de la mère. Et c'est la clinique, c'est une bonne partie de la clinique ordinaire, d'aider des hommes à se séparer de leur désir incestueux pour leur mère ou de leur dépendance incestuelle par rapport à leur mère, c'est-à-dire l'incapacité qu'ils ont eue à faire une place au père. Parce que pour un homme, c'est très important qu'il puisse faire la place. Et pour le père, c'est-à-dire, on a appelé ça le meurtre du père, ça veut dire qu'il puisse inscrire le père comme éclipsé et puis écarter le père en tant que présent. Vous voyez, c'est en diagonale. Et les femmes, elles ont une sacrée épreuve que j'appelle l'entre-deux femmes, que j'explique dans le livre, et qui consiste à capter suffisamment de féminité pour être une femme, pour affronter l'autre femme, parce que je montre que le problème pour une femme, c'est pas souvent l'homme, c'est l'autre femme. C'est-à-dire, là, souvent des couples grincent ou échouent parce que la femme n'est pas tranquille du côté de l'entre-deux femmes, c'est-à-dire n'est pas sereine sur sa féminité et considère toute autre femme, par exemple, comme un danger. Alors la fille dont vous me parlez, qui est purement narcissique, ça veut dire qu'elle a considéré qu'elle a tout pris de la féminité, qu'elle a, c'est pas seulement calqué sur la mère, elle a remplacé la mère en beaucoup mieux, en déesse-mère. Alors la question des déesses-mères, c'est encore un vaste sujet.
Daniel Siboni, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de votre livre « L'entre-deux sexuel », votre dernier livre qui paraît chez Odile Jacob. C'est un livre brillant, donc une réflexion ample, brillamment référencée et brillamment exprimée parce que aucun mot n'est en plus et chaque mot converge pour potentialiser le suivant. Et ce livre aussi a l'intérêt d'être en résonance très délicate avec l'époque. Merci beaucoup et au plaisir.
Merci à vous. Merci à vous de l'avoir lu et d'avoir si bien questionné.
Merci infiniment.
Au revoir.
Au revoir.
Strasbourg Pilote. Arts et lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.